Rien n'est caché à Dieu comme rien n'était caché à Élisée. En effet, lorsque Géasi a menti à Élisée, Élisée lui a répondu « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme, Naaman, a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Voilà. C'est-à-dire que Géasi ne pouvait rien cacher à Élisée, comme nous, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Et ça va être le thème de cette étude. Alors, dans ce passage, il est dit que le Seigneur révélait à son serviteur Élisée les plans d'attaque du roi de Syrie. Frères et sœurs, rien n'est caché devant Dieu. Aussi, il est important de se rappeler que Dieu sait tout, qu'il est omniscient, omniprésent, que rien ne lui échappe, qu'il voit chaque être humain, qu'il les observe tous et qu'il est attentif à toutes leurs actions. Proverbe, chapitre 15, verset 3, nous dit que « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Le psaume 139 nous parle, lui, d'une façon extraordinaire de l'omniscience de Dieu. Lorsque David dit au verset 1 à 4 de ce psaume « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et au verset 7 à 12, David dit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 13, déclare que « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, Dieu connaît toutes choses de toute éternité, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Il connaît tout ce qui concerne la création, l'univers, puisqu'il est le Créateur. » Au psaume 147, au verset 4 et 5, il est dit que Dieu compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Dieu connaît également toute la création animale, puisqu'il est dit en Matthieu, chapitre 10, verset 29, « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Et naturellement, Dieu connaît tous les êtres humains, tout ce qui les concerne, et ceci, chacun individuellement. Il connaît même jusqu'au nombre de leurs cheveux. Matthieu, chapitre 10, verset 30. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît toutes nos actions, toutes nos paroles, notre cœur, nos pensées, nos problèmes, nos désirs, notre passé, notre présent et même notre avenir. Au psaume 139, verset 16, n'est-il pas dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Psaume 139, verset 10. Jésus dira en Matthieu, chapitre 6, verset 8, concernant nos besoins, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Pour nous qui sommes croyants, l'omniscience de Dieu ne doit pas nous conduire dans le fatalisme, mais elle doit plutôt affermir notre foi et notre confiance dans le Seigneur, sachant qu'il est le Tout-Puissant. Il est écrit en Luc, chapitre 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et en Marc, chapitre 9, verset 23, « Au père d'un enfant possédé qui lui avait dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus répondit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussi, je dirais que l'omniscience de Dieu devrait nous rendre inébranlables au sein des difficultés et des épreuves. C'est une consolation de savoir que notre Dieu sait tout et qu'il est au courant de toute notre situation. Alors, faisons-lui confiance et cela nous libérera des inquiétudes et des soucis inutiles. Mais l'omniscience de Dieu devrait aussi nous conduire à marcher dans l'obéissance à sa parole, à marcher dans la vérité et la justice, et à vivre dans la sainteté, dans la transparence, sans camouflage et sans hypocrisie, loin du mensonge, puisque devant Dieu, tout est à nu et à découvert, nous n'avons rien à lui cacher. Lorsque Jésus était ici-bas, il est dit en Jean, chapitre 2, versets 24 et 25, qu'il ne se fiait point aux hommes parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce qui veut dire que souvent les hommes apparaissaient sous un faux visage. Alors, n'essayons pas de paraître ce que nous ne sommes pas, mais laissons-nous plutôt pénétrer par la lumière de la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, afin de pouvoir bénéficier du pardon de Dieu et de la purification de nos fautes par le sang précieux du Seigneur. Selon qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans notre récit, le roi de Syrie était en guerre contre Israël et toutes ses tactiques d'attaque étaient à chaque fois déjouées. En effet, le roi d'Israël était toujours mis au courant des plans d'attaque du roi de Syrie par le prophète Élisée, à qui Dieu avait donné une parole de connaissance par la révélation du Saint-Esprit concernant les attaques de l'ennemi. À propos des 9 dons du Saint-Esprit mentionnés dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 8, il est dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, au verset 4. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Versets 7 et 8. Le don du Saint-Esprit d'une parole de connaissance est donné occasionnellement par l'Esprit dans une situation particulière. Ce don du Saint-Esprit n'est pas le don de divination ou de clairvoyance qui est condamné par la Bible, car il est d'origine diabolique. Le don de divination provient de Satan, qui essaye toujours de singer Dieu, puisqu'il se déguise même en ange de lumière. Mais Satan, contrairement à Dieu, n'est pas omniscient. Et il y a de nombreuses mises en garde dans la parole de Dieu au sujet de la divination ou de la clairvoyance. Lévitique, chapitre 19, verset 31, nous dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » La Bible appelle cela de l'adultère spirituel. Attention, car beaucoup le font pour jouer et ils se font prendre dans le piège. En effet, la divination est un péché d'abomination, et sous l'Ancienne Alliance, ceux qui faisaient de telles pratiques devaient être lapidés, c'est-à-dire punis de mort. Dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Lorsque Paul et Silas sont arrivés dans la ville de Philippe pour y annoncer l'Évangile, il est dit qu'une femme qui avait un esprit de divination s'est mise à les suivre en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Actes chapitre 16, verset 17. Elle l'a fait pendant plusieurs jours. Ce qu'elle disait n'était pas faux, mais c'était par un esprit de Python qu'elle était devenue devineresse. En Actes, chapitre 16, verset 16, il est dit qu'elle avait en elle un esprit de Python. Paul, fatigué, s'est tourné vers cette femme et a dit à ce mauvais esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Naturellement, elle ne pouvait plus deviner. Aussi, les patrons qui l'employaient ont fait arrêter Paul et Silas. Faisons attention de ne pas essayer de vouloir connaître à tout prix ce que Dieu ne nous révèle pas, car on risquerait de tomber dans les pièges du diable, comme cela a été le cas pour nos premiers parents, à qui Satan avait dit à propos du fruit défendu, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » C'est Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. C'est alors que nos premiers parents ont mangé de ce fruit défendu et ils ont connu. Mais connu quoi? Ils ont connu la séparation d'avec Dieu, ce qui a apporté la crainte, la fuite, la souffrance, la haine, la division et la mort spirituelle ainsi que physique. Tout cela parce qu'ils ont voulu connaître ce qui était interdit. Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Par le don d'une parole de connaissance, Dieu peut accorder une révélation de sa connaissance dans un but bien déterminé pour accomplir son plan. Une révélation parfaite de la connaissance divine a été donnée à certains hommes par le Saint-Esprit pour écrire la Bible, la parole de Dieu, afin que nous bénéficions de cette révélation sur beaucoup de choses que nous n'aurions pas pu connaître autrement. Par exemple, la Bible contient des révélations sur la création, sur la nature de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sur les anges, la chute de Lucifer, le ciel, l'enfer, le salut, le jugement, etc., chose que l'homme n'aurait pas découvert par lui-même. Seulement, sachant que concernant les Saintes Écritures, nous n'avons pas à recevoir d'autres révélations supplémentaires. Dans son épître, Jude nous exhorte, au verset 3, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et cela en faisant allusion à la doctrine révélée dans la Bible. Si aujourd'hui, le don d'une parole de connaissance est toujours donné à l'Église par le Saint-Esprit, à quoi peut-il bien servir? Il peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu et à la révélation du plan du Seigneur. Ce don peut être présenté comme la pensée de Christ transmise à la pensée du croyant, et il est donné instantanément lorsqu'il est nécessaire. Cette connaissance peut être reçue par songe, vision, voix audible ou par révélation directe de l'Esprit de Dieu, à notre esprit qui la communique à notre intelligence, et ainsi nous savons comme par intuition. Ce don était manifesté dans l'Ancien Testament au travers du ministère des prophètes. Par exemple, lorsque Saül était parti chercher les ânesses perdues de son père, le prophète Samuel lui a révélé que les ânesses étaient retrouvées. 1 Samuel, chapitre 9, versets 19 et 20. Élisée, par ce don, a révélé l'hypocrisie et le mensonge de Géasi, qui était parti chercher des cadeaux chez Naaman le Syrien, en disant à Géasi, « D'où viens-tu, Géasi ?» et de lui répondre, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Et lui de répondre, pardon, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Élisée lui a alors répondu, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Maintenant, par ce don d'une parole de connaissance, Élisée révèle les plans d'attaque de l'armée syrienne au roi d'Israël. Ce don était également manifesté durant le ministère du Seigneur Jésus. Il connaissait ce qui était dans le cœur des hommes. Dans son dialogue avec la femme samaritaine, lorsque Jésus lui dit « Appelle ton mari et viens ici », la femme répondit « Je n'ai point de mari ». Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » C'est Jean, chapitre 4, versets 16 à 19. Puis elle a appelé les gens de son visage, de son village, et dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean, chapitre 4, verset 29. Ce don d'une parole de connaissance était également manifesté dans l'Église primitive. Pierre reçut la connaissance du mensonge d'Ananias et de Saphira. Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Alors que Pierre était en prière, il a reçu la révélation que 3 hommes l'attendaient à l'extérieur. Actes, chapitre 10, versets 19 à 21. À Damas, le chrétien Ananias reçoit une vision, dans une vision la connaissance au sujet de Saül de Tarse, sa conversion et l'adresse où il se trouvait. Actes, chapitre 9, versets 10 à 16. Au sujet des dons de révélation, l'apôtre Paul déclare en 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ainsi, par ce don, Dieu met en lumière ce qui est caché, comme il nous aide également à découvrir les pièges et les attaques du diable. Élisée avait dit au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » C'est ainsi que l'Esprit de Dieu révélait à Élisée tous les plans d'attaque du roi de Syrie, et ceci afin de sauver Israël. Alors, comme tous les plans du roi de Syrie échouaient, il a pensé qu'il y avait sûrement un traître parmi ses officiers. Il les a appelés en disant, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» C'est alors qu'un de ses serviteurs a répondu, Personne au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous rendez-vous compte? Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien que l'on puisse cacher. Il n'y a même pas de vie privée. Ce que tu prononces dans ta chambre à coucher est divulgué dehors. Sommes-nous conscients de cela? Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans Luc, chapitre 12, versets 2 et 3, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. toutes nos paroles et nos actions sont entendues et vues. Dieu sait tout. C'est ainsi que l'idée du roi de Syrie était de kidnapper Élisée. Mais ce n'est pas en supprimant un serviteur de Dieu que nous arrêterons l'œuvre de Dieu. On ne pourra jamais faire taire Dieu ou aveugler Dieu, car Dieu est éternel, omniprésent et omniscient. Hérodias pensait faire taire la voix de Dieu en faisant décapiter Jean-Baptiste, qui n'avait pas eu peur de condamner sa vie adultère. Frères et sœurs, Dieu est ici parmi nous comme il est à l'extérieur. Personne ne peut fuir le regard de Dieu. Dieu sait tout au sujet de chacun, en particulier. Aussi, le plus simple est de venir à lui, de faire la paix avec lui. C'était le message de Paul en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Soyez réconciliés avec Dieu ». C'était également le message d'Ésaïe, adressé au peuple d'Israël, en Ésaïe, chapitre 2, verset 5, où il est marqué « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel ». Sans essayer de nous camoufler, marchons honnêtement, comme en plein jour, c'est-à-dire dans la vérité, la droiture et la sainteté. Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent, avait dit Élisée au roi d'Israël. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Dieu veut notre bonheur. C'est pourquoi il y a tant de mises en garde dans la parole de Dieu, des mises en garde afin de fuir le mal, et comme il est écrit dans Romains, chapitre 13, versets 12 à 14, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soyons des enfants de lumière, en marchant dans la lumière, comme le dit l'apôtre Jean en 1 Jean, chapitre 2, verset 28, où il est écrit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » À présent, prions brièvement. Ô Dieu, ô notre Dieu souverain et tout-puissant, rien n'est caché à tes yeux. Tu vois tout, tu entends tout et tu sais tout. Que cela puisse affermir notre foi, mais que cela puisse aussi nous aider à marcher dans la transparence et dans la lumière. Amen.